France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est l'heure du journal de Benoît Bouscarel. Benoît, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Pourrait-on aller vers la création d'un deuxième jour de solidarité pour financer la dépendance? L'idée est dans l'air du temps au gouvernement. Hier, Bruno Le Maire, interrogé sur la question, n'a pas semblé y être hostile, tout comme il n'a pas renié ce rapport interne à Bercy publié par Le Monde et préconisant une baisse des aides sociales pour réduire la dépense publique. Analyse à suivre de Ludovic Piétenu et de Stéphane Robert. En Italie, les leaders des deux partis de la coalition populiste sortie des urnes en mars vont rencontrer le président de la République cet après-midi à 17h30. Pour lui soumettre le nom d'un possible futur chef du gouvernement, Mathilde Imberti nous attend en direct de Rome. Nous parlerons également de la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela. Reportage à Caracas de Julien Gonzalez. À suivre également l'analyse d'Éric Biegala sur le fait marquant du week-end en Syrie. Les derniers combattants de l'État islamique quittent ces dernières heures la région de Damas à la faveur d'un cessez-le-feu. Notre invité sera Mathieu Bourgeois, avocat, spécialiste en droit des données, auteur du livre « Droit de la donnée », principes théoriques et approches pratiques, paru l'an dernier aux éditions Litech Nexis. Avec lui, nous parlerons de la protection des données personnelles des citoyens européens. Une protection qui doit être assurée par l'entrée en vigueur à la fin de la semaine d'un règlement européen. Dans la deuxième partie de la grande table, Olivia.
On va faire un premier bilan des états généraux de la bioéthique, dont la première étape vient de s'achever avec un fin connaisseur du sujet. Jacques Testard est notre invité. Il signe actuellement au Seuil un essai au péril de l'humain où il dénonce les promesses suicidaires des transhumanistes.
Le scénario se répète chaque année depuis 2004. Cette journée du lundi de Pentecôte est à la fois fériée et travaillée. Et même si moins de la moitié des salariés sont au travail, effectivement, aujourd'hui, le principe de la journée de solidarité pour financer notamment l'accompagnement des personnes âgées est désormais bien ancré dans le système social français, à tel point que l'idée d'une deuxième journée de travail non rémunérée sous la forme de la suppression d'un autre jour férié fait son chemin au sein du gouvernement. Cette fois, ce serait pour financer la dépendance. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Benoît.
Une journée de travail offerte par les salariés, ça représente environ 2 milliards d'euros. On comprend que le chiffre puisse faire réfléchir le gouvernement au risque pour lui quand même d'aller à l'encontre des principes jusque-là affichés.
Oui, 2 milliards et même 370 millions d'euros précisément, c'est ce que rapporte cette journée mise en place aujourd'hui. Une partie va aux handicapés, le reste aux personnes âgées, sauf que le coût de la dépendance augmente. Vous pouvez toujours en ajouter une de plus. Il convient de trouver plutôt de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros, jusqu'à 15 milliards d'euros, avancent même d'autres spécialistes. Voilà ce que serait le coût d'un financement pérenne. On ira chercher l'argent pour le faire, disait le chef de l'État lors de son interview télévisée, c'était il y a un peu plus d'un mois, devant le journaliste Jean-Jacques Bourdin, qui lui posait tout simplement cette question. Allez-vous instaurer, par exemple, une deuxième journée travaillée non payée?
C'est une piste.
Vous y êtes favorable?
Est-ce que ça a bien marché la dernière fois?
1,5 milliard, ça devrait rapporter.
Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Il faut le regarder. Ce qui est sûr, c'est que on doit construire cette solidarité.
L'idée est soutenue par le patronat. Est-ce que cette journée sera libre ou imputée sur un jour férié, demande-t-il, sachant que le jour férié aurait le mérite, selon eux, d'augmenter la productivité. Du côté des syndicats, Pascal Pavageau, le nouveau numéro 1 de Force Ouvrière, a par exemple estimé que cette option d'une deuxième journée serait une façon détournée et cosmétique de répondre à un vrai problème général et collectif. Du côté des partis politiques, la France Insoumise invite le gouvernement à plutôt taxer le capital. Les Républicains, eux, y sont opposés. Pour le Front National, c'est une sorte de nouvel impôt. Alors qu'on le sait, le gouvernement insiste sur le fait qu'il n'y aura aucun impôt nouveau. On aurait là un problème de cohérence politique, ce ne serait pas la première fois, vous me direz. Selon l'Observatoire des conjonctures économiques, l'OFCE, ce serait même faire l'inverse de ce qui vient d'être fait, à savoir baisser les cotisations sociales et augmenter la CSG pour transférer du pouvoir d'achat des retraités vers les actifs. Ce serait donc tout simplement incohérent et en plus insuffisant. On peut ajouter au tableau, Benoît, une opinion publique défavorable. Réponse en fin d'année.
Merci Ludovic Piétenu. Invité d'Europe 1 hier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est exprimé sur l'autre question du moment et l'autre sujet brûlant en matière économique, la baisse probable des aides sociales. Une note interne de Bercy préconise, on le sait, de réduire la voilure de manière conséquente pour faire baisser la dépense publique. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Benoît.
Sur ce sujet brûlant non plus, Bruno Le Maire, hier, n'a rien démenti.
Non, Bruno Le Maire a même expliqué hier dans quel cadre, selon lui, il était légitime de baisser les aides sociales, notamment les aides liées à l'emploi.
Tout le volet social.
Les aides sociales.
C'est quasiment 50% de la dépense. Donc expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent vis-à-vis des Français. Nous estimons que la manière dont on lutte contre les inégalités depuis 20 ans ou 30 ans en France n'est pas la bonne. Il y a des inégalités importantes liées à la formation, à la qualification, liées à l'emploi et au chômage. Et nous compensons ces inégalités importantes en France par des aides sociales toujours plus élevées. Eh bien nous voulons rompre avec cela, traiter les inégalités à la racine, en formant mieux, en qualifiant mieux, en donnant des emplois. C'est exactement ce que nous avons commencé à faire. Ça nous autorise ensuite à réduire le montant des aides sociales qui sont distribuées pour compenser ces inégalités.
Baisser les prestations sociales après avoir redynamisé le marché de l'emploi, ça correspond à la mise en œuvre d'une politique libérale, lui a répondu ce matin l'ex-secrétaire d'État au budget de François Hollande, Christian Eckert. Il était l'invité de France Inter.
Il a raison de dire que c'est 50% de la dépense publique, mais c'est aussi l'originalité, j'allais dire, un dispositif que la plupart des pays du monde nous envient en matière de santé, en matière de retraite. Et l'originalité de la France, et c'est ce qui fait l'attachement des Français à ce système de solidarité, c'est bien cette mutualisation des risques concernant par exemple le chômage ou la maladie, qui sont faits sous forme de mutualisation, encore une fois.
Une spécificité française, dit Christian Eckert, et c'est sans doute à cette spécificité-là qu'entend partiellement s'attaquer Emmanuel Macron et son gouvernement dans le cadre d'une transformation du pays pour, explique-t-il, l'adapter et harmoniser les règles au niveau européen. Ça passera manifestement par un certain nombre de coupes dans les aides sociales, pas seulement concernant les aides à l'emploi. Une note interne, vous le disiez à Bercy, a dévoilé les pistes envisagées en fin de semaine dernière et des arbitrages devraient être rendus dans le courant de l'été. La question maintenant est de savoir comment tout ça sera perçu par la population.
Merci Stéphane Robert. Pas question de remettre en cause le statut des fonctionnaires. Ce matin, dans les colonnes du journal Libération, le secrétaire d'État Olivier Dussopt s'essaye à rassurer les agents de l'État à la veille d'une journée d'action à l'appel de 9 syndicats destinés justement à contrer les projets de modernisation de la fonction publique. À l'étranger, très peu de messages de félicitations à destination de Nicolas Maduro ce matin. Le président du Venezuela a certes été réélu hier, mais au terme d'un scrutin pour le moins sujet à caution, non reconnu par la communauté internationale et contesté par l'opposition. Le principal adversaire de Maduro, Henri Falcon, demande d'ailleurs la tenue d'un nouveau scrutin. Pas de quoi perturber cette nuit la joie des militants du président. Reportage à Caracas de Julien Gonzalez.
Devant le balcon du peuple, des centaines de personnes sont venues pour soutenir le président et candidat Nicolas Maduro. Certaines portent des t-shirts de la constituante, d'autres des casquettes aux couleurs du Venezuela. Parmi elles, Romaira Flores. Elle a explosé de joie à l'annonce des résultats donnés par le Conseil national électoral.
Je suis très heureuse et très émue. Le vote dur chaviste est sorti dans la rue pour lutter et voter, et ce en dépit des appels à l'abstention et de toutes les difficultés mises sur notre chemin. L'opposition a saboté les transports, mais nous avons réussi à aller voter. Je suis là pour dire à Nicolas Maduro qu'il y a un peuple qui le soutient et nous allons continuer à défendre la révolution.
Un enthousiasme partagé par Xiomara Toro, vêtue d'un t-shirt portant l'inscription « Chavez, je te le jure, j'ai voté ». Nicolas Maduro. Elle a donné ce dimanche un vote de confiance à l'actuel chef de l'État afin, précise-t-elle, qu'il poursuive ses efforts.
La situation économique est très dure, mais nous sommes bien conscients que cela ne peut pas se régler en un jour. Les prix exorbitants, c'est difficile à supporter parce que nous faisons face à une guerre menée en interne et depuis l'étranger. Donc nous avons besoin de fermeté. Ce dimanche, le peuple a demandé de la fermeté à notre président pour avancer face à cette situation.
Et parmi ses propositions, le président réélu a notamment assuré qu'il convoquera une nouvelle journée de dialogue national.
En Italie, les choses se précisent et l'heure de vérité arrive 2 mois et demi après les élections. Matteo Salvini et Luigi Di Maio, les deux figures de la coalition qui s'apprête à prendre le pouvoir, ont rendez-vous dans l'après-midi avec le président de la République, Sergio Mattarella, qui a prévenu, pas question pour lui de se contenter de ratifier n'importe quelle décision en provenance de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles. Les deux formations victorieuses lors des élections de début mars ont dévoilé en fin de semaine dernière un programme tournant le dos à l'austérité. Ils doivent maintenant mettre des noms sur ce programme, à commencer évidemment par le nom de celui ou de celle qui dirigera le futur gouvernement. Mathilde Imberti, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
En direct de Rome, est-ce qu'un nom, un profil circule déjà ?
Oui, le favori à cette heure est Giuseppe Conte, un professeur de droit à Florence, un parfait inconnu aux yeux du grand public. C'est un profil technique, hein, 54 ans Conte, il a étudié aux États-Unis et en Europe, il est passé par la Sorbonne aussi à Paris. Il avait toujours voté à gauche avant de rencontrer les 5 étoiles. C'est un homme loin des radars médiatiques, il a 200 petits followers sur Twitter, ça vous donne une idée. Il serait Conte l'homme du compromis entre la Ligue et les 5 étoiles. Alors l'équipe de gouvernement sera soumise au président de la République, Sergio Mattarella, cet après-midi, vous l'avez dit, ainsi que son programme. Et c'est un exécutif qui part, disons-le, avec la bénédiction des militants des deux formations qui ont voté ce week-end, avec la bienveillance également des Italiens en général qui soutiennent ce nouvel exécutif, selon un sondage paru dans le quotidien La Repubblica.
Alors les comptes Twitter et les compteurs Twitter de l'intéressé pourraient s'affoler si la nouvelle se confirmait. Mathilde, en attendant, les marchés, eux, sont plutôt orientés à la baisse.
Oui, ce matin, la bourse de Milan a ouvert en baisse et le spread, c'est un indicateur très surveillé ici, c'est l'écart entre les taux d'intérêt italiens et allemands. Le spread grimpe. L'inquiétude s'exprime aussi chez les partenaires de l'Italie, en France en particulier. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a estimé que toute la stabilité de la zone euro serait menacée si l'Italie ne respectait pas ses engagements. Et de fait, le programme du nouvel exécutif est coûteux et risque de sortir le pays des clous du pacte de stabilité. C'est un avertissement français qui a été jugé inacceptable par Matteo Salvini, le leader de la Ligue. Alors Sergio Mattarella est le chef de l'État, est tout à fait conscient de ce climat. Il cherchera à encadrer ce nouvel exécutif. Il vérifiera la composition du gouvernement et en particulier les noms des ministres de l'économie et des affaires étrangères.
Merci Mathilde Imberti en direct de l'Italie qui envisage donc de sortir de l'austérité. En Grèce, les choses sont tout autrement orientées et les autorités ont plutôt l'intention de poursuivre dans le rôle du bon élève. Bonjour Angélique Kourounis.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Athènes. Hier, les institutions européennes et la Grèce sont parvenues à un accord technique sur un ensemble de réformes à mener pour boucler la dernière tranche du programme d'aide des créanciers. Alors, il faut encore qu'une liste de quelques 88 prérequis soit validée en matière budgétaire, mais est-ce que ça pourrait signifier, Angélique, pour la Grèce, la fin de la tutelle ?
Oh ben non, les choses ne sont pas aussi roses, si j'ose dire, qu'elles y paraissent, car si la Grèce sort techniquement de la crise, puisqu'elle a enregistré une croissance après 9 ans de crise économique, politique, financière et sociale sans précédent, elle restera pour de très longues années sous la tutelle législative et budgétaire de ses créanciers, tant que les réformes, ces fameux prérequis dont vous avez parlé, ne seront pas mis en œuvre et la dette actuellement de 178% du PIB réduite sensiblement.
Alors de quoi s'agit-il précisément, Angélique, ces prérequis ?
Eh bien, d'une part, ils sont la condition pour l'octroi de la dernière tranche de 11,7 milliards d'euros, dont la plus grande partie, il faut le souligner, retournera à ces mêmes créanciers au nom du remboursement de la dette. Ils imposent, dans l'ordre, une accélération des privatisations, notamment dans le domaine de l'énergie, des richesses en métaux précieux en sous-sol, des transports, des infrastructures touristiques, que le gouvernement grec le veuille ou non. L'accélération des mises aux enchères électroniques des biens immobiliers, y compris des résidences principales des Grecs endettés, sans aucun plan social pour les gens qui se retrouvent à la rue. L'ouverture de casinos, la baisse du seuil minimum d'imposition qui déjà se trouve à 5000 euros, ce qui veut dire que les gens qui gagnent 480 euros par mois sont imposables, et une 14e baisse des retraites d'environ 10%. À ceci s'ajoute entre autres la réforme de l'administration, du secteur médical, du droit du travail et la réalisation du cadastre.
Il semble pourtant que le pays aille mieux, Angélique. La croissance semble revenir, les agences de notation ont relevé la note souveraine de la Grèce.
C'est exact, vous avez raison, les grands indicateurs vont mieux, le chômage est même passé de 27% à 21%. On voit d'ailleurs dans la rue des offres d'emploi, mais les salaires dépassent rarement les 480 euros. 700 grand maximum pour les plus hauts salaires payés, il faut le souligner, le plus souvent avec plusieurs semaines, voire des mois de retard. Pour masquer tout cela, le seuil de pauvreté est passé de 598 euros par mois pour une famille de 4 personnes à 376, alors que plus d'un million de retraités vivent avec 360 euros sans la future baisse annoncée, alors que 2,4 millions de contribuables, soit presque un tiers, ne peuvent payer leur dette à l'État de moins de 500 euros. Alors oui, la Grèce va mieux, peut-être, mais les Grecs ne le voient pas.
Merci Angélique Kourounis en direct d'Athènes pour France Culture. Le président palestinien Mahmoud Abbas était toujours hospitalisé ce matin. À 83 ans, il a été admis hier soir dans un hôpital proche de Ramallah pour des complications liées aux suites d'une précédente hospitalisation. Une nouvelle ambassade étrangère inaugurée ce matin à Jérusalem, quelques jours après celle des États-Unis. C'est le Paraguay qui embraye le pas aux Américains et qui, comme également le Guatemala, reconnaît donc officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. En Syrie, un deuxième groupe de djihadistes a été évacué dans la nuit du sud de Damas après un premier hier. C'est le dernier fief de l'organisation État islamique dans cette région qui est ainsi rayé de la carte. Les opérations ont été permises par un accord de cessez-le-feu, encore non confirmé officiellement par Damas, mais semble-t-il effectif depuis hier matin. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Benoît.
Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle victoire pour le régime syrien?
Alors, on ne peut pas appeler ça une victoire au sens militaire du terme, mais dans les faits, cela revient au même, les morts en moins. Avec l'évacuation des djihadistes du camp de Yarmouk, le régime de Damas est maintenant en passe de contrôler la totalité du territoire autour de sa capitale. Le camp, il avait été établi en 1957, il est situé à 8 km au sud du centre-ville. C'est l'un des plus anciens lotissements ayant accueilli la diaspora palestinienne au Moyen-Orient. Pendant des années, il a été l'un des principaux centres politiques des mouvements palestiniens, le Fatah au début, le Hamas plus récemment. Avant-guerre, il abritait encore environ 160 000 Palestiniens. Les djihadistes de l'État islamique ont conquis et occupé la position en 2015. Selon une estimation onusienne, il ne restait plus à cette époque-là que 15 à 20 000 civils dans le camp. La bataille pour reprendre Yarmouk aux djihadistes a commencé à la mi-avril, après que le régime eut réduit une autre poche, non contrôlée par lui, la Ghouta orientale, tenue elle par les rebelles. Siège hermétique, bombardement lourd à l'artillerie et à l'aviation, systématique et quotidien, comme sur la Ghouta et ailleurs. Les troupes de Damas ont acculé les djihadistes, sinon à la reddition, au moins à un accord de cessez-le-feu mis en œuvre ce week-end, avec à la clé l'évacuation des combattants et de leurs familles, autour de 1500 personnes, en direction du désert syrien. Une évacuation qui a commencé hier, s'est poursuivie cette nuit et ce matin, une trentaine de bus se dirigeant vers l'est du pays. Entre Palmyre et Deir ez-Zor, l'État islamique contrôle encore en effet une zone d'environ 100 km sur 20, une zone importante en surface sur le territoire syrien, mais qui ne recouvre essentiellement que du désert, sans infrastructure, sans ville, sans même d'axe de communication. Une zone qu'il devrait être assez simple pour les troupes du régime de réduire complètement. Ce sera peut-être la prochaine bataille.
Merci Éric Biégala. Retour maintenant sur une première médicale mondiale très impressionnante, due à une équipe de chercheurs et de médecins français, a annoncé hier. Il est désormais possible d'implanter une trachée artificielle, mais d'origine biologique, à des patients souffrant par exemple de lésions cancéreuses, alors que jusqu'alors aucun traitement n'existait. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Benoît.
Une des parades trouvées par l'équipe du professeur Emmanuel Martineau a été d'utiliser, et donc de recycler en quelque sorte, des tissus présentant peu de risques de rejet.
Oui, il s'agit d'un morceau d'aorte prélevé chez un donneur décédé, cryogénisé, donc conservé par moins 80 degrés Celsius. Et contrairement au greffon artificiel, eh ben, il n'y a pas de réaction immunologique, donc pas de nécessité de prendre ensuite à vie un traitement anti-rejet pour le patient. Ce qui est difficile dans une greffe de trachée, c'est qu'il faut implanter un tissu qui doit se rigidifier, puisque le conduit qui laisse passer l'air vers les poumons est composé, si on simplifie, hein, d'une vingtaine d'anneaux cartilagineux recouverts à l'intérieur d'un épithélium, une couche de muqueuse, en contact avec l'air, couche composée de cellules ciliées qui doivent être capables de filtrer les poussières et de limiter les infections. Alors l'équipe du docteur Martineau a réussi à greffer un morceau d'aorte prélevé chez des donneurs décédés en ajoutant un stent, un petit tuteur pour éviter que cette aorte ne s'affaisse sur elle-même provoquant l'asphyxie des patients. Ce qui a été extraordinaire, explique le docteur Martineau, c'est de constater que l'épithélium avec ses cellules ciliées s'est régénéré dans l'aorte qui a été greffée sur les malades et que le cartilage aussi s'est reformé, donc comme si l'aorte étrangère s'était transformée en trachée du patient opéré. Ça faisait 20 ans que le professeur Martineau attendait une publication internationale. En fait, les premiers essais sur des moutons ont débuté en 97 dans le laboratoire du professeur Carpentier à Paris-Descartes. Le premier patient a été opéré à l'hôpital Avicenne il y a plus de 7 ans. En moyenne, le recul est de 4,5 ans pour tous les malades traités. Et sur les 13 greffés, un patient est décédé dans les 3 mois suivants. Mais 8 sur 10 respirent aujourd'hui vie normalement et leur stent a même été retiré.
Merci beaucoup Tara Schlegel. En fin de semaine, les choses vont changer, vont évoluer pour nos données personnelles, nous citoyens européens. Le RGPD va entrer en application, ce sera vendredi, le règlement général sur la protection des données. Dans un monde où les données personnelles deviennent de plus en plus un enjeu important et stratégique, notamment pour les entreprises, ce texte doit mieux protéger les citoyens dans leur vie privée. Pour en parler, nous sommes avec Mathieu Bourgeois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, spécialiste en droit des données et auteur du livre « Droit de la donnée, principes théoriques et approches pratiques », un livre paru l'année dernière aux éditions Litech Lexis Nexis. Alors, est-ce que le pas qu'on va franchir vendredi est si important que cela ? Est-ce que ce règlement est une vraie révolution concernant la protection de nos données personnelles ?
Oui, bonjour. Alors, pas réellement, parce que en fait, 80% des règles qui sont issues du RGPD existent déjà dans la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Néanmoins, il y a quelques nouveautés majeures, notamment par exemple la désignation d'un DPO, d'un Data Protection Officer, d'autres nouveautés dont on parlera dans quelques instants, et puis surtout, le RGPD augmente significativement les sanctions, ce qui va contraindre les organisations, entreprises, secteur public, eh bien, à passer d'une conformité formelle à une conformité réelle et à monter en maturité sur le sujet. Le RGPD, c'est en fait la traduction juridique de la transformation numérique.
Ouais, il va y avoir des systèmes de contrôle. Lise Verbeek.
Bonjour Mathieu Bourgeois.
Bonjour.
Alors le texte force les entreprises à davantage de transparence et de sécurité dans leur manière d'utiliser nos données personnelles. L'idée c'est de responsabiliser ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles vont devoir mettre en place pour être conformes au RGPD ?
Alors, deux catégories de choses si on veut être synthétique. Premièrement, elles vont mieux devoir connaître leur traitement, c'est-à-dire en dresser la liste. Elles vont devoir établir un registre des traitements, des activités de traitement, le tenir à jour et dans certains cas réaliser des analyses d'impact pour certains traitements à risque. Deuxièmement, c'est le deuxième pan, elles vont devoir mieux faire connaître leur traitement à la fois aux personnes concernées et aux autorités. C'est-à-dire, par exemple, lors de la création de chaque traitement, il va falloir qu'elles soient très transparentes et très claires, qu'elles informent les personnes de manière plus complète et dans certains cas qu'elles obtiennent leur consentement de manière non équivoque. Et puis pendant la vie du traitement, quand le traitement de leurs données connaît certains incidents, c'est le cas par exemple des cyberattaques qui peuvent menacer la sécurité informatique de l'organisation, il peut y avoir des failles de sécurité, et bien là il va falloir dans certains cas que l'organisation attaquée, victime, informe les autorités dans les 72 heures dans certains cas, et puis carrément même les personnes concernées. Donc il va falloir, si vous voulez, mettre en place un nouveau cadre, et il va falloir professionnaliser l'usage de la donnée dans l'entreprise.
Et concernant les entreprises qui traitent des données personnelles sensibles, alors notamment des données sur les opinions, les origines, mais également la santé, qu'est-ce que ces entreprises vont devoir faire de plus ? Vous parliez tout à l'heure qu'elles devront se doter d'un délégué à la protection des données, DPO ?
Oui, alors... En matière de données sensibles, vous avez repris effectivement la définition qui est un petit peu élargie par le nouveau règlement. Le nouveau règlement reprend le cadre existant, il ajoute quelques nouvelles exigences qui sont importantes. Par exemple, la désignation obligatoire, vous avez raison, d'un délégué à la protection des données, du fameux DPO, lorsqu'il y a traitement de données sensibles à grande échelle. Un hôpital par exemple, une clinique. À l'inverse, un médecin individuel n'aura pas à avoir de DPO. En ce moment même, à l'heure où nous parlons, le Parlement est en train de modifier la loi informatique et liberté. Alors, elle a été adoptée la semaine dernière, il y a eu un bras de fer et une opposition assez vive entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur certains points, notamment sur le traitement des données sensibles. Le Conseil constitutionnel a été saisi, donc à l'heure où je vous parle, je ne peux pas encore vous donner le régime définitif, mais il est clair que d'ores et déjà, on sait déjà que le régime, que la France a été plus loin que le RGPD sur les données de santé et a précisé un cadre beaucoup plus précis. Donc il y aura un cadre plus précis que le RGPD pour les données sensibles de santé.
Alors, ce règlement concerne également les fameux GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon. Est-ce que le RGPD est vraiment contraignant pour ces GAFA qui utilisent masse de données personnelles ?
Alors, vous avez raison, ça me donne l'occasion de rappeler à tous nos auditeurs que le règlement s'applique en Europe, c'est-à-dire pour toutes les plateformes, si vous voulez, qui sont établies en Europe, mais concerne aussi toutes les plateformes qui sont situées dans le monde entier, Californie, Asie, dès lors qu'elles traitent des données sur des Européens, grosso modo. Donc oui, toutes ces plateformes, et donc les GAFA notamment, devront se plier au RGPD. Alors, si votre question est est-ce que le RGPD est suffisamment dissuasif, l'avenir nous le dira. Les sanctions sont conséquentes, hein. On parle de 4% ou 20 millions, donc c'est conséquent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sous l'impulsion de la Cour de justice de l'Union européenne, en 2014, avec le fameux arrêt Google Spain sur le droit à l'oubli, Google a modifié en fait sa politique de déréférencement et aujourd'hui respecte davantage qu'avant les droits des personnes, ce qu'on appelle le fameux droit à l'oubli. Donc je pense que effectivement ce règlement va poursuivre ce mouvement et que les GAFA vont se conformer.
Est-ce qu'elles auront aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête, notamment avec l'action de groupe permise par le RGPD ?
Alors vous avez raison, le RGPD offrait aux États membres la possibilité de transcrire dans leur droit national une action de groupe. La France a fait le choix d'aller dans cette transposition. Alors là, il y avait une opposition, effectivement, Assemblée nationale-Sénat. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a encore quelques points qui doivent être précisés. Mais grosso modo, on aura une action de groupe en France. Des associations agréées pourront agir et donc pourront, effectivement, ça sera une épée de Damoclès, vous avez raison, pour ceux qui ne se conforment pas, puisqu'elles s'exposeront non seulement à la fameuse amende dont on vient de parler, mais encore et surtout à des dommages et intérêts qui pourront être colossaux, puisque s'il y a des milliers de personnes qui demandent l'indemnisation, les dommages et intérêts peuvent être très importants.
Dernière question, Mathieu Bourgeois. Après le scandale Cambridge Analytica et Facebook, le vol de données de Yahoo, le RGPD marque-t-il un tournant majeur dans notre prise de conscience à nous de la valeur de nos données personnelles ?
Oui, à mon avis, oui. Ce mouvement a commencé il y a déjà quelques années. C'est la prise de conscience d'un certain nombre de citoyens de ce que leurs données personnelles ne doivent pas être traitées n'importe comment. Et de la même manière que dans l'alimentaire, où il y a eu ce mouvement, vous savez, bio contre la malbouffe, je pense que dans le numérique, il y aura ce mouvement de faire le choix, si vous voulez, de confier ces données à des gens qui sont respectables et qui respectent les droits.
S'il y en a. Merci Mathieu Bourgeois, avocat spécialiste en droit des données. Merci Lise Verbeck. Cette information en provenance du Parlement européen devant lequel Mark Zuckerberg doit s'exprimer demain. Le fondateur de Facebook doit s'exprimer notamment sur les lacunes de sa plateforme en matière justement de protection des données. Cette intervention sera accessible à tous grâce à un direct vidéo diffusé sur Internet. C'est ce qu'annonce le Parlement ce matin. La météo, temps changeant aujourd'hui avec des nuages de plus en plus menaçants au fil des heures sur à peu près toutes les régions. Les températures maximales cet après-midi seront comprises entre 17 et 25 degrés. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous d'information sur France Culture à 18h avec Aurélie Kiefer.